Genève. Côté. Nature.
Bien le bonjour, bienvenue sur Radio Cité et plus précisément dans l'émission Genève Côté Nature, l'émission de l'association Nariès. Je suis Émilie et je suis évidemment accompagnée de ma sœur Virginia pour vous raconter plein de choses intéressantes. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour la dernière émission avant la pause estivale. Ces 4 prochaines semaines, ce seront des rediffusions qui vous seront proposées sur les ondes. Et nous vous retrouverons ensuite fin août pour démarrer la 3e année de notre émission.
Pour finir notre tournus habituel, aujourd'hui nous vous proposons un côté science. Mais avant tout, vous le savez bien, chers auditeurs, nous allons parler du défi de la semaine pour notre Eco-Challenge 2022. Nous en sommes à la semaine 30 et ces jours, le défi est fort sympathique puisqu'il s'agit d'organiser un pique-nique ou un apéro en extérieur. Conviez donc vos amis, votre famille ou vos voisins, rassemblez des chaises, des tabourets ou même des couvertures et faites en sorte que chacun amène une salade, des grignotes salées ou des fruits pour passer un bon moment tous ensemble en profitant de la chaleur des soirées en ce moment.
Pendant les prochaines semaines, il vous faudra aller sur le site de Nariès, qu'on vous rappelle rapidement, www.nariès.ch, pour voir les défis qui vous attendent, puisque nous ne pourrons pas vous les présenter hebdomadairement. Autrement, vous pouvez aussi réécouter l'émission Astuces de la semaine passée, dans laquelle nous vous avons expliqué les défis qui auront lieu pendant l'été. N'oubliez pas de faire des photos de vos succès et de les publier sur les réseaux en taguant le hashtag EcoChallenge 2022 et hashtag Nariès-CH.
Revenons-en à notre émission du jour. Nous sommes en été, vous êtes parés pour vos vacances, pour partir au soleil et découvrir de nouveaux paysages. Eh bien, nous avons décidé de vous parler de quelques structures géologiques incroyables qui se trouvent dans le monde. Elles sont bien souvent très prisées par les touristes, évidemment, mais elles sont surtout très particulières et bien qu'elles-mêmes ne soient pas vivantes, elles sont à la base de certains écosystèmes très spécifiques et parfois très rares.
Alors, premier type de structure, les dolines. Ce sont des dépressions circulaires qui sont apparues après que les calcaires de surface se soient érodés et soient tombés, révélant ainsi un trou béant. Elles portent plusieurs noms en fonction de leur emplacement géographique, par exemple en Amérique centrale où elles se font appeler des cénotes ou cénotées. À l'époque, certaines étaient complètement en dehors de l'eau, mais puisque l'eau monte à cause entre autres de la fonte des glaciers, aujourd'hui elles sont presque toutes liées à l'eau.
Un des cénotes très connus est le cratère de Chicxulub au Yucatan, qui pourrait être l'une des causes de l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années, parce qu'en effet, ce cratère pourrait provenir de l'impact d'une météorite d'environ 10 km de diamètre. Il est constitué de deux cercles concentriques. Dans cette région du monde, plusieurs cénotes sont reliées par des grottes aquatiques, ce qui est le cas ici puisque ce cratère est lié de manière sous-marine à des structures appelées « blue holes » ou « trous bleus » qui sont aussi des cratères mais dont les bords ne dépassent pas de la surface de l'eau. On les repère par vue aérienne car ils forment des ronds bleu foncé.
Un des trous bleus les plus spectaculaires est le grand trou bleu situé au large du Belize, qui fait plus de 300 mètres de diamètre et plus de 120 mètres de profondeur. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. Il est devenu célèbre grâce au commandant Cousteau, qui l'a décrit comme un lieu de plongée exceptionnel. Alors étonnamment, par contre, il ne faut pas s'attendre là-bas à une biodiversité incroyable. Le lieu est magique de par sa géologie, mais il ne s'agit que d'un trou. Il n'y a pas de faune ou de flore fantastique à cet endroit, ce qui peut parfois décevoir certains plongeurs qui croyaient entrer dans un monde merveilleux. Alors certes, certains gros poissons peuvent être rencontrés, mais c'est tout.
Le cratère de Chicxulub et le grand trou bleu du Belize, bien qu'on ne le voit plus maintenant, avaient un toit et sont donc des dolines d'effondrement qui ont été ensuite complètement noyées. Le record de grandeur est détenu par le cénote Zacatón au nord-est du Mexique, qui est profond d'au moins 318 mètres. Alors il faut savoir que ces structures sont extrêmement dangereuses à explorer. Plusieurs plongeurs se sont retrouvés prisonniers des conduits labyrinthiques ou surpris par les profondeurs. L'exploration du cénote Zacatón a d'ailleurs été suspendue après une tragédie qui a coûté la vie à un plongeur. Et ce, jusqu'à ce qu'un robot de la NASA puisse aller l'explorer à la place d'un humain.
Alors cependant, pour voir ces structures incroyables, on n'a pas besoin d'aller forcément à l'autre bout du monde. Au nord de l'Espagne, dans les Asturies, il existe un endroit décrit comme étant une doline à remplissage tidal, c'est-à-dire dépendant des marées. Il s'agit de la plage intérieure de Gulpiyuri, dans la baie de Biscay, qui se remplit en fonction de la hauteur de l'océan Atlantique. Parfois, on n'y voit que du sable, et soudainement, de l'eau arrive comme de nulle part entre les rochers jusqu'à former un lac qui reste quelques heures en place, puis qui redisparaît.
Nous avons dit juste avant que le grand trou bleu du Belize n'était pas dingue en termes de biodiversité, mais il faut quand même penser que lorsqu'une doline se forme, il s'agit d'un milieu pionnier, donc un milieu qui vient d'être bouleversé. Donc oui, à certains endroits, ce sont des refuges importants pour la faune et la flore. En Hongrie, par exemple, une étude de 20 dolines a été conduite. Il a été démontré qu'elles ont joué un rôle très important dans la conservation et la dispersion de plantes vasculaires. Plus de 900 espèces ont été répertoriées, avec certaines espèces rares, voire très rares ou menacées, mais qui ont pu survivre grâce au réseau de micro-refuges climatiques présents dans ce type de structure.
Second type de structure dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les gouffres. Certains sont appelés des mégadolines parce que ce sont aussi des endroits où le toit s'est effondré, mais ces structures-là sont plutôt verticales. On distingue d'ailleurs les gouffres des cavernes parce que ces dernières ont des entrées horizontales, on en parlera juste après.
Parlons tout de suite des records. Le gouffre le plus profond se situe en Géorgie, donc en Europe de l'Est. Il porte le nom de Veryovkina et s'ouvre à plus de 2300 mètres d'altitude pour une profondeur de plus de 2200 mètres. Vertigineux, non ? En comptant toutes les circonvolutions et un réseau de galeries à sa base, on compte une longueur de 17 500 mètres. Il a été découvert en 1982, mais il aura fallu attendre août 2017 pour atteindre enfin la profondeur maximale et ajouter 6 km de galeries horizontales à l'exploration. C'est encore une fois une zone dangereuse car des crues soudaines peuvent remplir les conduits. Certains spéléologues ont dû sortir en quatrième vitesse en plein petit déjeuner pour ne pas finir engloutis.
Une zone bien connue pour abriter des gouffres est en Chine, dans la zone tropicale et subtropicale. Et pas n'importe quel gouffre, des gouffres géants qui dépassent les 5 millions de mètres cubes. On les appelle des Tiankeng. Ces structures sont dues à la dissolution de la roche par l'eau de pluie, créant ainsi un vide dans le sous-sol, et finalement, suite à des effondrements répétés, une ouverture apparaît. Sur des images satellites, plus de 200 dolines géantes ont été repérées, et rien que dans le comté de Lay, une trentaine ont déjà été explorées. Ces explorations sont évidemment très difficiles, notamment à cause de l'accès à ces structures qui est très compliqué. Heureusement, de nos jours, l'utilisation de drones facilite grandement le travail des chercheurs. En mai dernier, un nouveau gouffre a été découvert. Il fait 192 mètres de profondeur et l'ouverture elle-même mesure 360 par 150 mètres. À l'intérieur, les spéléologues ont trouvé une forêt luxuriante composée d'arbres centenaires allant jusqu'à 40 mètres de haut. Une vraie forêt primitive qui pourrait renfermer une diversité d'espèces inconnues fantastiques.
Voici le grand intérêt de ces gouffres-là, parce que ce sont des lieux où l'homme n'a pas encore mis les pieds et où la nature a pu évoluer en étant préservée. Les premiers spéléologues n'étant pas botanistes, ils n'ont pas pu déterminer le taux de nouvelles espèces durant leurs premières approches. Leur rôle est de cartographier et de déterminer la topographie du gouffre dans un premier temps. Ensuite, des spécialistes sont appelés pour démarrer des inventaires.
Si vous voulez vous en mettre plein les yeux, allez sur internet et tapez « Tiankeng ». Vous verrez des images incroyables. On se croirait dans le troisième volet de l'âge de glace, dans lequel les héros tombent soudainement sous la glace et découvrent un monde perdu abritant encore des dinosaures dans une végétation luxuriante.
Il est temps maintenant de faire une courte pause musicale. Aujourd'hui, puisque nous parlons de paradis qui doivent être préservés, nous allons écouter le thème original du film Avatar, composé par James Horner.
Radio Cité Genève.
Thank you.
C'était le thème de Avatar, écrit par James Horner. Vous êtes de retour dans Genève, côté nature, l'émission nature de Radio Cité que l'association Nariès vous propose chaque semaine. Aujourd'hui, pour la dernière émission avant la pause estivale, nous sommes dans un côté science et nous parlons des structures géologiques incroyables que nous pouvons trouver sur la planète. Dans la première partie de cette émission, nous avons décrit les dolines et le cas particulier des cénotes, ces trous qui ont été formés il y a très longtemps et qui sont souvent remplis d'eau. Nous avons aussi parlé des gouffres et notamment de la Chine qui contient énormément de ces puits de biodiversité.
Pour revenir quelques instants sur les cénotes, nous avons parlé de quelques lieux particuliers et bien connus, mais dans la région du Yucatan, il en existe 10 000, dont moins de la moitié a été étudiée. Hormis les cénotes très caractéristiques, il y a donc tout un tas de grottes remplies d'eau douce dans lesquelles on peut aller se baigner, pour peu qu'on ose se jeter dans un trou. Pour les Mayas, ces grottes étaient des entrées vers le monde souterrain, et bien souvent leur seul apport d'eau douce. Ce sont aussi des lieux extrêmement calmes parce qu'il n'y a pas de courant ou pas de bruit dû à l'océan. La visibilité y est incroyable parce que l'eau provient de la pluie et a été filtrée à travers la terre. Avec les dédales de tunnels qui partent de la zone centrale, c'est donc le paradis des plongeurs, s'ils sont friands de sensations fortes, parce que c'est tout de même un peu angoissant de nager dans des tunnels inondés.
Si ces structures vous interpellent, n'hésitez pas à aller sur internet pour rechercher les endroits les mieux cotés. Si vous tapez notamment « cénote jumping », vous aurez plusieurs sites où vous pourrez allier ces endroits merveilleux à de l'adrénaline en sautant justement dans les piscines naturelles depuis des hauteurs parfois surprenantes.
Nous allons maintenant passer aux cavernes. Nous l'avons dit tout à l'heure, la différence entre les gouffres et les cavernes réside dans le fait que pour les premiers, les entrées sont verticales, alors que pour les secondes, les cavernes, elles sont horizontales. Alors évidemment, quand on pense caverne, on pense tout de suite aux hommes des cavernes qui y avaient élu domicile. Toute la région de la Dordogne en France regorge de ce type de structures dans lesquelles on peut voir des dessins attestant de la présence d'humains en des temps reculés.
Certaines grottes sont en surface, mais il en existe aussi des immergées ou qui ont de nos jours leur entrée immergée parce que le niveau de la mer est bien plus haut. On estime qu'il y a 20 000 ans, le niveau de la mer était à près de 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Une des grottes ornées et sous-marines bien connues est la grotte Kosker, du nom de son découvreur Henri Kosker, un scaphandrier professionnel. Elle est connue depuis 1985 et se situe dans la région des Calanques de Marseille. L'entrée de cette grotte est actuellement à 37 mètres sous la surface et ensuite il faut parcourir un tunnel long de 175 mètres avant d'atteindre les parties encore émergées. On y trouve plusieurs dizaines d'œuvres peintes et gravées qui correspondent à une phase d'occupation qui date d'il y a 27 000 ans et une autre qui date d'il y a 19 000 ans. Les dessins représentent des mains en négatif et beaucoup d'animaux évidemment comme des chevaux, des bouquetins et quelques animaux marins comme des phoques, des grands pingouins, des méduses ou des cétacés. En tout, des dessins de 177 animaux distincts ont été recensés dans cette grotte. Petite anecdote, Henri Kosker l'a découverte en 1985, mais il ne l'a signalée qu'en 1991, parce qu'il a passé 6 ans à l'explorer avec des amis. Il a fallu la mort tragique de 3 plongeurs pour qu'il se décide à la déclarer. Depuis juin 2022, une réplique à 90% de cette grotte a été réalisée.
Autre grotte d'intérêt, il s'agit de la grotte d'Orda en Russie, qui est une grotte de gypse longue de près de 5 km, dont 4,8 km sont sous l'eau. Cela en fait l'une des plus grandes et longues grottes de gypse connues. Elle contient le plus grand siphon du monde, c'est-à-dire un couloir dans lequel on est émergé et qui présente un coude immergé de 935 mètres de profondeur. La température ambiante est d'environ moins 40 degrés en surface, n'oublions pas que nous sommes en Russie, de moins 23 degrés sous terre, mais de 5 degrés sous l'eau. Cette grotte a été découverte en 1969. Une légende est liée à elle, c'est le mythe de la dame de la grotte. Elle raconte qu'un esprit surveille les plongeurs qui s'y introduisent et ne les autorise à passer que s'ils n'ont pas de mauvaises intentions vis-à-vis de la grotte.
Évidemment, nous pourrions parler ici de toutes les grottes ornées bien connues comme Lascaux par exemple, mais cela serait le sujet d'une émission à part entière. Quand nous étions au collège, nous avons d'ailleurs eu la chance de faire un séjour là-bas, dans cette région, et d'y découvrir, grâce au contact de notre assistant de biologie, quelques petites grottes fermées au public. Nous avons des souvenirs fantastiques de lieux reculés dans des propriétés privées, fermées par des grandes grilles. C'était un moment privilégié et fantastique que nous vous raconterons un autre jour.
Pour la dernière structure géologique dont nous allons parler, nous allons changer un petit peu d'environnement et diminuer les degrés. Jusque-là, on vous a parlé de zones paradisiaques qui vont généralement de pair avec des températures tropicales. Mais il y a aussi des structures géologiques fantastiques dans le froid. Nous allons donc parler des grottes de glace. Il en existe des fosses, entre guillemets, qui sont creusées, mais les vraies grottes de glace sont des grottes qui se forment là où il y a des rivières souterraines qui gèlent quand les températures descendent bien en dessous de zéro. Résultat, une cavité naturelle est formée et se modifie constamment. Il faut visiter ces grottes avec un guide spécialisé, puisque justement la topographie bouge sans cesse.
On peut trouver ce type de grotte en Islande, notamment la grotte de glace de Katla, qui est la seule du pays qui est accessible toute l'année, en fonction des températures bien sûr, et qui a plus de 800 ans. Elle se situe à l'intérieur de, alors attention, Mýrdalsjökull, un grand glacier qui lui-même est au sommet d'un volcan. Pour la visiter, il faut évidemment un certain matériel, des crampons, des torches, des casques. Les murs sont blancs et bleus, striés de noir à cause des cendres volcaniques des éruptions du passé.
Une autre grotte naturelle peut être visitée chez nous, en Valais. C'est la grotte de Zinal, à 2070 mètres d'altitude, à l'extrémité du glacier du même nom. Une randonnée précède la visite de la grotte et celle-ci n'est accessible qu'en hiver, car la rivière souterraine qui sort du glacier est autrement trop grande et prend toute la place. Comme la précédente, cette grotte change d'année en année parce qu'elle suit les modifications du glacier.
On va juste mentionner l'autre type de grotte de glace, les grottes artificielles. Elles sont creusées chaque année et agrémentées de sculptures de glace qui dureront toute la saison. On en trouve notamment une à Chamonix, qui est creusée dans la mer de glace depuis le 19e siècle. On en trouve une autre vers le parc naturel des Écrins.
Et voilà pour cette émission sur les structures géologiques incroyables de notre planète. On espère que ce rapide tour d'horizon vous aura mis de jolies images dans les yeux. Et surtout, si vous visitez l'une ou l'autre de ces structures durant vos voyages, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. On sera ravis de les voir.
On vous rappelle que ce côté science est le dernier avant les vacances d'été. Les 4 prochaines semaines, nous vous proposerons des rediffusions d'anciennes émissions. Et nous nous retrouverons à la rentrée, fin août, pour démarrer la 3e année de Genève Côté Nature. Merci à tous de nous écouter et de nous suivre. Nous aimons beaucoup créer ces petits reportages et vous transmettre notre passion et nos connaissances sur la nature qui nous entoure.
Nous vous rappelons que cette émission est bénévole. Et si vous voulez soutenir notre travail, vous pouvez sans autre devenir membre de notre association. Toutes les informations sont sur la page de contact de Nariès sur le site internet www.nariès.ch.
Nous vous rappelons aussi que le défi de la semaine est de faire un pique-nique ou un apéro en extérieur. Partagez vos photos de ces challenges réussis sur les réseaux sociaux en taguant hashtag EcoChallenge2022 ou hashtag Nariès-CH.
On espère que vous passerez un excellent été, que vous profiterez de merveilleux moments en famille ou entre amis et que vous aurez l'occasion de découvrir de jolis coins de nature là où vous mèneront vos vacances.
Et on vous souhaite de bonnes vacances à tous et on vous dit à très bientôt.
Au revoir.
Genève. Côté. Nature.